C'est une soirée très importante aux États-Unis. À 21h, Raphaël, le président des États-Unis, Donald Trump, qui livre son discours sur l'état de l'Union.
Faisons d'abord ensemble, Paul, un petit BABA de c'est quoi un discours sur l'état de l'Union. On en parle tous les ans, mais il y a encore beaucoup de gens qui ignorent vraiment cosser sa manche en français, là, en bon français, en hiver, un discours sur l'état de l'Union. En gros, c'est une liste d'accomplissements puis une liste de propositions. Essentiellement, c'est une liste d'épicerie que le président va présenter devant le Congrès ce soir. Donc, ce sont les élus des deux chambres du Congrès, du Sénat et de la Chambre des représentants qui se rassemblent ensemble à la Chambre des représentants pour écouter le président. Le président va avoir son vice-président Mike Pence et la présidente maintenant de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Donc, un républicain et une démocrate derrière lui pendant toute la durée du discours. Je mentionne ça parce qu'il y a un aspect qui est toujours théâtral à cet événement-là. On va interrompre le président très fréquemment pour applaudir. Et là, ce qui va être fascinant de voir ce soir, qu'on n'avait pas l'an dernier, lorsque les républicains détenaient la majorité à la Chambre et que ce n'était pas Mme Pelosi, mais plutôt Paul Ryan, un président républicain de la Chambre qui était derrière Donald Trump, c'est que là, on va voir quelqu'un du parti adverse. Donc, à quel point est-ce que Mme Pelosi va se lever ou non pour applaudir lorsque le président y va de déclarations plus fracassantes dans certains cas que d'autres? Là.
Mais quand Barack Obama faisait ses discours sur l'état de l'Union, il était applaudi aussi par les républicains.
Dans certains cas.
Dans certains cas, évidemment quand ça leur plaisait. Mais spontanément, les sénateurs et les membres de la Chambre des représentants se lèvent.
Exact.
Et là, il va falloir compter le nombre de fois ce soir où Donald Trump va soulever les membres du Congrès.
Et imagines-tu, sans tomber dans la spéculation, imagines-tu si le président devait utiliser l'occasion de ce soir pour faire quelque chose comme déclarer l'état d'urgence dans le dossier du mur? La réaction que tu aurais en direct là, au Congrès, ça serait absolument remarquable. Donc, écoute, c'est une possibilité. C'est sûr qu'on va parler du mur, qu'on va parler de la sécurité frontalière, mais il ne sera pas seulement question de ça. Il va être question d'à peu près toutes les sphères d'activité de l'État fédéral américain, tout au moins si le président donne un discours de l'Union normale. Donc, ça peut parler de santé, d'économie, d'affaires étrangères, vraiment une liste d'épicerie et ça dure à peu près normalement une heure.
On aura peut-être des précisions sur sa prochaine rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong-un.
En effet, lorsqu'on parle d'affaires étrangères, on s'entend que ça va être au sommet de la liste des sujets d'intérêt ce soir. C'est à 21h pour ceux qui veulent regarder. Et suite au discours du président, il y a une réponse officielle. Ça, c'est comme ça à toutes les années. Le parti qui ne contrôle pas la Maison-Blanche a une réponse officielle. Évidemment, c'est pas fait devant le Congrès. Ça n'a pas autant, je te dirais, de mordant comme réponse. Mais ce soir, ça va être donnée par la candidate, l'ancienne candidate démocrate défaite pour le poste de gouverneur de la Géorgie, Stacey Abrams. Et Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, va donner lui aussi sa propre réponse personnelle au président Trump.
Est-ce que tu penses qu'il pourrait annoncer qu'il va tenter d'obtenir à nouveau l'investiture démocrate?
C'est très possible. Je te dirais que pour quelqu'un qui est vraiment désintéressé d'une autre campagne présidentielle américaine, c'est se donner beaucoup d'importance ce soir que d'y aller d'une réponse personnelle. Exactement.
Bon, évidemment, on suit de très près les rebondissements dans ce qu'on peut appeler véritablement une saga politique qui secoue l'État de la Virginie.
En effet, là, ça fait presque une semaine, Paul, que jour pour jour, on se parle des problèmes qui entourent le gouverneur de l'État, M. Northam. Il y a eu la question de l'avortement, il y a eu la question de son album de finissant avec la photo, évidemment, avec le Ku Klux Klan, etc. Mais là, ce dont on parle vraiment depuis les dernières 24 heures, c'est de son lieutenant-gouverneur. On le rappelle, dans le système américain, dans la plupart des États, tu as un gouverneur, tu as un lieutenant-gouverneur. C'est un petit peu l'équivalent d'un président et d'un vice-président. Si le gouverneur saute, c'est le lieutenant-gouverneur qui devient gouverneur. C'est le numéro 2. Et là, dans les deux cas, tu as des démocrates. Le gouverneur est un démocrate, le lieutenant-gouverneur est un démocrate. Et le lieutenant-gouverneur, du nom de Justin Fairfax, est accusé depuis les dernières heures, d'inconduite sexuelle. C'est une histoire qui remonte à 2004, qui remonterait à 2004. Voici les nouveaux développements qui ajoutent à l'ironie de la situation. La femme qui l'accuse est allée embaucher les services pour la représenter de la même firme d'avocats qui a représenté Christine Blasey Ford à l'automne dernier. Qui était Christine Blasey Ford? La femme qui accusait le candidat de Donald Trump à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, dans un autre cas d'inconduite sexuelle. Donc, tu as ça et en plus de ça, dans les dernières minutes, on a appris l'identité de la femme en question qui accuse le lieutenant-gouverneur de la Virginie et elle aussi, comme Mme Ford, c'est une professeure. Donc, imagine l'inconfort de tous les démocrates, Paul, pas juste en Virginie, à l'échelle nationale, qui ont passé des semaines à l'automne dernier, ça fait à peine quelques mois, à scander haut et fort qu'on devait croire Mme Ford, qui n'avait aucune corroboration, tout comme cette femme-ci n'a pas de corroboration, qu'on devrait croire les victimes. Là, c'est quoi le discours qu'on va tenir? Si on est moindrement conséquent, on va devoir dire qu'on doit croire aussi cette femme-là contre le lieutenant-gouverneur démocrate de la Virginie.
Et surtout d'avoir engagé la même firme d'avocats. Oui, c'est ça l'ironie de l'histoire. Mais qu'arrive-t-il avec le gouverneur, Ralph Northam? Est-ce qu'il va démissionner sous pression? Il semble s'accrocher à son poste.
Il s'accroche toujours. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme en poste pour le faire sauter s'il ne refuse pas de lui-même, de son propre accord, de partir. Et la Virginie est le seul État sur les 50 aux États-Unis qui ne permet à un gouverneur que de briguer un seul et de servir un seul mandat. Donc, il n'y a pas d'incitatif pour lui dans la mesure où de partir, parce que de toute façon, à la fin de son mandat, c'est fini. Donc, pourquoi ne pas s'accrocher? C'est le calcul qu'il semble faire présentement.
21h ce soir, le discours sur l'État de l'Union du président américain. Et évidemment, Raphaël, on compte sur toi pour le commenter demain dans 24 heures.
À demain.
Merci. Au retour, Robert Poëty, les carambolages, lui qui a déjà été ministre des Transports. On va en parler des suggestions de l'actuel ministre François Bonnardel.